Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Monnaie, banque et marché financier, dans sa 10e édition française, est un manuel d'économie monétaire et financière adapté de l'ouvrage de Frédéric S. Mishkin. Publié par Pearson France en 2013, ce volume de 928 pages examine le fonctionnement des systèmes financiers, les mécanismes monétaires et l'action des banques centrales. Son objectif n'est pas de donner des conseils d'investissement, mais de fournir un cadre analytique pour comprendre comment circulent les fonds. Comment se forment les taux d'intérêt, pourquoi les banques existent et comment les déséquilibres financiers peuvent devenir des crises. L'ouvrage articule la théorie économique, l'étude des institutions et l'analyse des politiques publiques. L'adaptation francophone accorde une place notable aux réalités européennes et françaises, tout en conservant la perspective internationale du texte original. Cette édition met particulièrement en avant la comparaison entre les États-Unis et l'Union européenne, les régimes de politique monétaire, les crises de liquidité, la réglementation bancaire et le développement du système bancaire parallèle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le système financier comme mécanisme de circulation et d'allocation des capitaux. Le livre part d'une fonction fondamentale du système financier, mettre en relation les agents disposant d'une capacité de financement et ceux qui ont besoin de fonds. Ménages, entreprises et administrations n'épargnent ni n'empruntent au même moment ni dans les mêmes proportions. Les marchés financiers et les intermédiaires réduisent donc les coûts de recherche, d'information et de transactions qui empêcheraient une rencontre directe efficace entre prêteurs et emprunteurs. Cette perspective permet de comprendre que le crédit et les titres financiers ne sont pas seulement des produits techniques. Ils organisent l'allocation de ressources vers l'investissement, la consommation ou le financement public. Mishkin distingue utilement le financement direct sur les marchés, par exemple par émission d'obligations ou d'actions, du financement indirect par les banques et autres intermédiaires. Cette distinction éclaire les effets possibles d'une perturbation bancaire, même si les marchés continuent d'exister. Certains emprunteurs peuvent perdre l'accès aux fonds lorsqu'ils ne disposent pas d'informations suffisamment transparentes pour convaincre des investisseurs. L'analyse relie ainsi l'architecture financière aux enjeux de croissance, de financement des entreprises et de stabilité économique. Elle évite de présenter la finance comme une sphère autonome en rappelant son rôle d'infrastructure pour l'économie réelle. Deuxièmement, monnaie. Taux d'intérêt et transmission de la politique des banques centrales. L'ouvrage étudie les liens entre monnaie, taux d'intérêt, activité économique et inflation afin d'expliquer ce que peut réellement faire une banque centrale. La politique monétaire n'agit pas mécaniquement sur chaque prix ou sur chaque décision privée. Elle modifie les conditions monétaires et financières, notamment le coût et la disponibilité du crédit, puis ces changements se transmettent aux dépenses des ménages, aux investissements des entreprises, aux prix d'actifs et aux anticipations. Le traitement des taux d'intérêt est central, car leur niveau observé résulte de plusieurs éléments au rendement réel attendu. Inflation anticipée, risque de défaut, liquidité et durée des instruments. Comprendre ces composantes évite de confondre un taux directeur avec l'ensemble des taux pertinents pour l'économie. La 10e édition simplifie la présentation des stratégies et régimes de politique monétaire, en distinguant les dimensions internes et internationales. Cette organisation aide à comparer des objectifs tels que la stabilité des prix, le soutien à l'activité ou la stabilisation financière, sans supposer qu'ils sont toujours compatibles à court terme. Le livre souligne aussi l'importance de la crédibilité des autorités monétaires. Si les agents anticipent une inflation durablement plus élevée, les décisions de prix, de salaire et de portefeuille peuvent affaiblir l'efficacité de la politique menée. La monnaie apparaît donc comme un phénomène institutionnel autant que quantitatif. Troisièmement, pourquoi les banques restent indispensables malgré les marchés financiers? Mishkin explique l'existence des banques à partir des imperfections d'information et des coûts de contrôle. Un épargnant isolé ne possède généralement ni les compétences ni les moyens nécessaires pour évaluer en profondeur chaque emprunteur, surveiller l'usage des fonds et diversifier convenablement son risque. Les banques effectuent ces tâches à grande échelle, elles sélectionnent les emprunteurs, suivent les crédits et transforment de nombreux dépôts en prêts. Cette intermédiation peut rendre possible le financement d'agents qui ne pourraient pas facilement émettre des titres sur les marchés. Elle comporte toutefois une fragilité spécifique. Les dépôts sont souvent disponibles à court terme tandis que les prêts sont consentis à plus longue échéance et restent moins liquides. Une perte de confiance peut alors provoquer des retraits massifs, même lorsqu'une banque possède des actifs de bonne qualité mais difficilement cessibles immédiatement. Le livre permet de relier ce risque de liquidité à l'assurance des dépôts, au rôle de prêteur en dernier ressort et à la supervision prudentielle. La banque N est donc pas décrite comme un simple dépositaire, elle transforme les échéances, mutualise certains risques et produit de l'information. En contrepartie, son activité justifie une réglementation particulière, car les défaillances bancaires peuvent transmettre rapidement des tensions à l'ensemble du système de paiement et du crédit. Quatrièmement, crise financière, titrisation et montée du système bancaire parallèle. L'approfondissement consacré aux crises financières constitue un élément distinctif de cette édition. Le livre analyse comment une dégradation de l'information des bilans ou de la confiance peut interrompre les circuits du crédit. Lorsqu'un choc réduit la valeur des garanties, augmente les défauts attendus ou rend les institutions opaques, prêteurs et investisseurs deviennent plus prudents. Cette prudence peut être rationnelle à l'échelle individuelle tout en aggravant collectivement le ralentissement du financement. L'ouvrage introduit également le système bancaire parallèle, expression qui désigne des activités de crédit et de transformation financière réalisées hors du cadre bancaire traditionnel. La titrisation y occupe une place importante, des créances peuvent être regroupées puis transformées en titres vendus à des investisseurs. Ce mécanisme peut diversifier les sources de financement et répartir certains risques, mais il peut aussi éloigner le détenteur final du risque de l'emprunteur initial. Si les montages deviennent complexes ou si les incitations à sélectionner correctement les crédits sont insuffisantes, l'évaluation du risque se détériore. L'analyse ne réduit donc pas la titrisation à un instrument nocif ou bénéfique par nature. Elle montre que ses effets dépendent de la transparence, de la qualité des créances, des garanties de liquidité et de la capacité des autorités à surveiller les interdépendances. Cette approche met les crises au cœur de l'économie financière plutôt qu'en marge de celle-ci. En dernier lieu, la comparaison Europe-États-Unis pour comprendre change. Supervision et souveraineté monétaire, à l'adaptation française renforce la valeur pédagogique du manuel en confrontant les institutions américaines et européennes. Cette comparaison rappelle qu'une même théorie monétaire peut produire des effets différents selon l'organisation des banques, la structure des marchés, les règles de supervision et le cadre politique. L'étude du cours euro-dollar permet notamment de relier les mouvements de change au taux d'intérêt, aux anticipations et aux relations financières internationales. Un taux de change n'est pas seulement un prix extérieur, il influence la compétitivité, les prix des importations et les arbitrages de portefeuille. Le livre aborde aussi le système bancaire français, les crises de liquidité et les tensions possibles entre institutions européennes et autorités nationales. Ces thèmes montrent la difficulté de répartir les responsabilités lorsque la monnaie est commune, mais que certaines compétences bancaires ou budgétaires demeurent nationales. L'évolution de la réglementation et de la supervision est ainsi présentée comme une réponse à des risques qui dépassent les frontières des établissements et des États. Cette dimension comparative évite une lecture exclusivement centrée sur les États-Unis, fréquente dans les manuels issus du contexte anglo-saxon. Elle aide les lecteurs francophones à situer les outils de la Banque centrale, les règles prudentielles et les enjeux de coordination dans l'environnement institutionnel européen. Le résultat est un cadre plus concret pour interpréter les débats sur l'union monétaire et la stabilité financière. En conclusion, monnaie. Banque et marchés financiers s'adressent en priorité aux étudiants en économie, gestion, finance, sciences politiques ou préparation au concours, ainsi qu'aux professionnels qui souhaitent consolider les bases analytiques nécessaires pour lire l'actualité monétaire et bancaire. Sa densité suppose un investissement réel, les lecteurs recherchant une simple introduction vulgarisée pourront le trouver exigeant. En retour, son approche progressive permet de relier les mécanismes fondamentaux, comme la formation des taux d'intérêt et l'intermédiation, à des enjeux institutionnels concrets, comme la supervision, les crises de liquidité et les opérations des banques centrales. Le bénéfice intellectuel majeur est d'apprendre à raisonner en chaîne de transmission plutôt qu'à isoler un seul indicateur. Une hausse de taux, une chute de prix d'actifs ou une tension sur le change ne prennent sens qu'à travers les bilans, les anticipations, les structures de marché et les règles publiques qui les entourent, par rapport à des ouvrages plus spécialisés en finances de marché ou plus théoriques en macroéconomie. Ce manuel se distingue par son articulation systématique entre monnaie, banque, marché et réglementation. La version française ajoute une comparaison substantielle entre l'Union européenne et les États-Unis, ainsi que des repères sur le cadre français. Malgré la date de cette 10e édition, elle reste particulièrement utile pour construire les concepts permettant d'analyser les débats contemporains, à condition de compléter les données institutionnelles et réglementaires par la source récente. Si vous souhaitez soutenir Frédéric Mishkin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.